Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Nous sommes au mardi 13 février de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Vous comprenez sans doute que nous sommes dans l'émission Club de la Presse. La mise en onde de l'émission de ce jour est assurée par Thomas Ete d'Atevi. Comme toujours, Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lousseau. Vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs, vous le savez très bien. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes, bien sûr, en studio, c'est Hugues Parkoudjo-Johnson. Hugues, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien, tu as bien démarré la semaine.
Par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Et comme d'habitude, hein, c'est avec le même plaisir qu'on se retrouve là pour décrypter l'actualité de chez nous et d'ailleurs.
Justement. Adam Adronou, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur la radio Canal FM en ce moment.
J'espère que tu vas bien.
Oui, tout va bien, ça va.
Dieu merci. Alors, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 13 février et cette date nous rappelle juste la journée mondiale de la radio. La radio, vous savez quand même que nous sommes en train de parler ici et beaucoup de personnes nous écoutent depuis chez eux, à la maison, au bureau et partout. Et la radio, comme le dira l'autre, c'est la magie. Hugues, alors la radio, c'est vrai que aujourd'hui, quand on prend la radio de par le passé, ce que la radio a constitué, pas à pas, c'est comme si la radio est en train alors de perdre aussi sa vertu ou ses atouts d'antan.
Oui, évidemment, à cause des nouvelles technologies de la communication et qui permettent aux gens aujourd'hui d'aller chercher des informations très rapidement sur l'Internet. Et donc, la radio qui constituait le grand lot de de canal de communication, évidemment, est en train de perdre un peu de sa notoriété. Mais n'empêche, la radio joue toujours son rôle. Et comme nous le savons tous, quand vous allez dans nos communautés, un peu à l'intérieur du pays, un peu dans les tréfonds de nos pays, la radio constitue le canal par lequel les concitoyens continuent par écouter, par suivre l'information. Et je crois que quel que soit le degré d'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio gardera toujours ses lettres de noblesse dans nos sociétés. Et je crois que aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas communiquer avec la radio. Vous savez, les gens, par exemple, quand ils sont dans leur bureau, dans leur voiture, un peu partout, ils écoutent quand même la radio. Et je crois que la radio va toujours garder sa notoriété dans nos sociétés.
Adam, c'est vrai que la radio a cet atout d'être accessible partout. Et c'est ce qui fait même d'ailleurs sa notoriété.
Oui, vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias alternatifs, comme on a l'habitude de les appeler notamment, les réseaux sociaux, les études de communication alternatives, il y a eu une capacité d'adaptation face aux médias traditionnels que nous avions connus, notamment la radio. Et c'est vrai, cette journée devait marquer des points d'ancrage pour réellement susciter le débat en ce qui concerne ce qu'est la radio aujourd'hui. Sauf que très souvent, c'est passé inaperçu. Mais il est de bon ton que l'on puisse en parler. Ce qui fait que cette capacité de réadaptation dont je parlais fait qu'aujourd'hui, au-delà de ce que l'on peut constituer comme étant en tout cas un impact sur la notoriété de la radio, n'en est pas une. Pour moi, aujourd'hui, on constate véritablement, vous l'avez dit dès à l'entame de vos propos, lorsque vous parlez de l'émission qui, par exemple, a des relais, que ce soit au niveau des autres radios, au-delà de ces médias alternatifs dont j'en parlais tout tantôt, cela fait qu'en réalité, on a plus grandi et également en ce qui concerne l'effectif des auditeurs. Mais ce qui fait en réalité la notoriété d'une radio, c'est en réalité, en tout cas, le contenu des émissions, etc., qui devrait être attrayant. Donc, aujourd'hui, vous prenez un auditeur, il a la latitude de pouvoir choisir, que ce soit au niveau des autres radios, mais également c'est là où on parle de compétitivité. Mais à partir du moment où le contenu ne suit pas, vous êtes d'accord avec moi que cette radio puisse perdre, en tout cas, l'effectif de cet auditeur ou auditeur. Et j'espère que Radio Canal FM fait un peu l'exception en ce qui concerne le contenu des émissions, ce qui fait que aujourd'hui, elle est la radio, l'une des radios, en tout cas, les plus écoutées.
Tout à fait.
Comme quelqu'un l'aurait dit.
Merci beaucoup. Je connais bien cette personne. Alors, Isidore nous a rejoint. Isidore, bonjour.
Bonjour. Le micro ne fonctionne pas.
Oui, ça va. Allez-y.
Maintenant, ça va, je crois bien. Bonjour Pascal, bonjour confrère, bonjour à toutes et à tous.
Nous rappelons que vous avez fait la radio et vous êtes un grand homme alors de radio, un journaliste de radio et beaucoup de gens se reconnaissent aujourd'hui alors sur le journal Actu Express, mais vous aimez bien la radio.
Non, je suis un homme de radio et depuis Tropique en passant par Victoire FM.
Tout à fait.
Donc, bref, la radio ne peut pas mourir. Nous l'appelons dans notre jargon un média chaud.
Tout à fait.
Si vous allez à un lieu de reportage, celui qui va vite porter l'information, c'est la radio. Et avec des sons, c'est ça.
Et puisque c'est ce que nous vendons à la radio.
Oui, oui, et l'accessibilité. Quelqu'un qui est dans son domicile ou au champ, partout où il se trouve, il a accès à la radio. Tu ne peux pas transporter la télévision avec toi.
Mais aujourd'hui, avec l'Internet, aujourd'hui, c'est comme si la radio reçoit des coups.
Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et c'est ce que nous impose la nouvelle technologie. Vous prenez une radio mondiale comme RFI, aujourd'hui, à toutes les applications. Mais pourquoi pas? Et vous le faites aussi si bien.
Tout à fait.
Avec YouTube.
Puisque cette émission est relayée.
Tout comme si on y était.
Oui, oui, c'est comme ça. Au début de Gutenberg, quand la radio a apparu, on croyait que la presse écrite allait disparaître. Mais l'un s'en fout. Quand la télévision était arrivée, on croit que la radio devait disparaître. Pas du tout.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les jeunes sont plus sur le smartphone et avec l'internet et autres, alors pour ils quittent un tout petit peu.
Est-ce qu'ils ont la vraie information?
C'est le contenu.
Mais c'est le contenu. Est-ce qu'ils ont la vraie information? Est-ce que ces journalistes
les médias alternatifs produisent la vraie information?
Non, je ne vais pas aller jusque là. Ces journalistes, bon, des gens qui ne sont pas du journalisme, mais qui...
Mais vous voulez parler des journalistes citoyens?
Citoyens. Ces journalistes citoyens, est-ce qu'ils font le recoupement?
Non.
Pas du tout. Ben, si tu veux avoir la vraie information, c'est un défi pour nous de pouvoir donner la vraie information, des informations recoupées, vérifiées, avant de les mettre sur nos médias.
Donc la radio a toujours sa place.
La radio doit toujours avoir sa place.
Oui, Adam.
Oui, vous savez, moi, ce qui fait même la vertu de la radio, vous constaterez que c'est l'un des canaux qui est souvent épargné des affres des institutions de régulation de la communication pour la plupart du temps. Parce que, Isidore le disait tantôt, vous avez le son qui suit le reportage. Donc du coup, il est très rare de pouvoir faire monter un son qui n'est pas une émanation de celui qui le porte. Donc, vous convenez avec moi que cet outil, déjà, c'est un outil fort. Mais vous l'avez dit, aujourd'hui, lorsque vous parlez des jeunes qui sont de plus en plus orientés vers d'autres canaux, mais ce n'est pas évident. Mais pour accrocher, il faudrait quand même avoir de bons contenus. À partir du moment où vous n'avez pas de bons contenus, il est bien évidemment que vous désorientez vos publics sur d'autres fronts. C'est en cela que j'ai dit... La radio a toujours sa place, mais cela dépend de l'efficacité de ce qui l'anime. Cela dépend du contenu des émissions, des programmes qui sont contenus sur cette radio-là, ce qui fait que cette radio est plus écoutée. La preuve est que lorsque vous prenez aujourd'hui, les sondages d'opinion ont véritablement montré sur tout le continent africain, sur la radio, non de la conglomérat de la sous-région, bien évidemment, parce que chacun va là-bas, il y apprend. Mais ce n'est pas toutes les émissions que tout le monde suit. Il y a des émissions dont les gens le font patrie. Parce que la preuve est que Radio Canal FM également, vous n'allez pas me dire que toutes les émissions sont suivies. Les gens font le tri suivant les besoins et suivant ce qui veut.
C'est ce qui est aussi l'intérêt de la radio, parce que vous pouvez faire
rapidement le tri. Mais surtout aujourd'hui, ce qui en rajoute, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, c'est justement parce qu'aujourd'hui, avec les médias alternatifs, on peut suivre l'émission Canal FM, tout comme si on y était. Donc ça voudrait dire quelque part, ça a plus affecté plutôt la télévision, que la radio. La radio n'est nulle part affectée. Parce que vous avez, il n'y a pas de radio aujourd'hui qui n'a pas son site internet. Il n'y a pas une radio qui ne pose pas des vidéos sur son site internet.
On parle plus aujourd'hui des podcasts.
C'est ce qui nous manque. Alors. Et pour vous suivre les formes et les, en fait, l'émission, et pas à temps réel. Voilà. Et ça, il y a des outils pour ça.
Tout à fait.
Il faut seulement s'y adapter.
D'accord. Alors, Eric?
Alors, je veux dire, depuis la création de la radio, c'est en 1896, hein, par l'Italien Marconi, je pense que la radio est demeurée un canal important de communication entre les peuples. La radio a cette capacité d'atteindre d'atteindre l'auditeur là où il se trouve. Ça veut dire que vous pourrez porter sur vous votre radio n'importe où vous êtes, dans votre lieu de travail, au champ, à la maison, même quand vous dormez, vous pourrez avoir la radio à côté de vous. C'est dire que la radio constitue le principal canal de communication entre les peuples. Maintenant, ce qui fait la particularité de la radio aussi bien que de la presse écrite, c'est que les informations qui sont diffusées sur la radio et à travers la presse écrite, c'est des informations vérifiées. C'est des informations qui sont regroupées parce que respectant une certaine déontologie et une certaine éthique.
Pas la course du temps.
On ne fait pas la radio en publiant de fausses informations. Alors là, vous êtes en train de tuer.
Parce qu'on veut être la toute première personne à le publier.
Avoir le scoop, oui, mais il faut que ce scoop-là soit quand même une information vérifiée, fiable et viable. Viable, pourquoi ? Parce que ça doit avoir un intérêt pour l'auditeur qui l'écoute. Et je crois que, pour finir, la radio restera toujours ce meilleur canal de communication parce que les informations qui sont diffusées sont de première main et de bonne facture.
Alors, la radio, c'est aussi un instrument très efficace alors pour la promotion de la culture. Et donc, nous allons parler de la culture, bien sûr. parlons culture. Alors, puisque nous sommes au mardi, voilà, nous sommes au mardi. Et donc, et c'est vrai, nous écoutons même de la musique, hein, musique à la radio. Et Hugues, vous écrivez en ce matin dans votre journal, les hommages à Bella Bello se poursuivent avec un concert à lui ce 16 février 2024. Alors, nous savons que depuis le décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2023, il y a un hommage qu'on a commencé. C'est le gouvernement qui organise alors cet hommage à l'endroit alors de la diva de la musique togolaise Bella Bello. Finalement, ça se poursuit et ce 16, il y aura justement un concert.
Un concert en l'honneur de Bella Bello, justement dans sur la scène qui lui est dédiée à l'université de Lomé, qui s'appelle la scène Bella Bello. Et donc, vous savez que Bella Bello, c'est une diva africaine d'origine togolaise. C'est comme ça, moi, je la qualifie, parce que ce qu'elle a laissé comme œuvre ne concerne pas que le Togo, mais toute l'Afrique, parce que Bella Bello a eu à faire des scènes. Et sur ces scènes-là, on ne disait pas la Togolaise, tout simplement, on disait l'Africaine. Et je crois que les hommages qui sont rendus à Bella Bello ne sont pas des hommages volés, mais plutôt c'est des hommages mérités. Et je crois que parce qu'elle est décédée un 10 décembre 1973 des suites d'un accident de circulation.
En 2023, ça faisait 50 ans.
50 ans. Et donc, pour ces 50 ans, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu trois grands concerts qui ont été organisés au mois de décembre. Et là, je crois que l'Université de Lomé aussi va organiser ce concert-là en son honneur pour toujours lui rendre hommage. Bella Bello, vous vous rappelez, pendant plus de 15 ans, elle a figuré sur le billet de 10 000 francs de CFA, de la BCAO. Et donc, c'est dire que ces hommages n'ont pas commencé après ces 50 ans de décès, mais depuis toujours, depuis 1979. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est une place national dédié à cette diva de la musique africaine.
À l'université de Lomé, il y a la place Bella Bello, qui est une scène, scène musicale.
Mais je pense que cela ne suffit pas. Vous regardez un peu ce qui s'est passé avec Jimmy Hope, qui nous a également quitté, paix à son âme, et d'autres stars de la musique togolaise également. Je pense qu'il faut commencer par célébrer ces artistes-là de leur vivant pour qu'ils sentent quand même qu'ils apportent quelque chose à la culture de leur pays. Voyez-vous, King Messan, qui est là aujourd'hui, qui porte le flambeau de la musique local aujourd'hui à l'international. King Messan qui se produit d'ailleurs ce samedi à
Kondavé
et autour du fleuve
Monon.
Et il sera accompagné de Sagboa Danielou, le Béninois que nous connaissons. C'est des gens qu'il faut déjà commencer par célébrer. Et il ne faut pas attendre leur décès pour magnifier ce qu'ils sont en train de nous apporter culturellement parlant. Je crois que Bella Bello, elle est partie. Aujourd'hui, il faut que les générations futures connaissent cette dame-là et sachent qui elle a été pour nous, ce qu'elle a fait pour la culture de l'Afrique.
Adam, est-ce que vous avez aussi l'impression que, alors pour ce qui concerne les hommages faits aujourd'hui à Bella Bello, il faut aujourd'hui créer quelque chose, soit un monument ou donner un nom à une rue, à Lomé, pour plus immortaliser l'artiste ou la diva?
Non, vous savez, moi je pense que Bella Bello, c'est cette célébrité qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a traversé tout le temps. Vous aurez constaté que elle est souvent reprise. En tout cas, c'est ce qui fait marquer les esprits. Que ce soit à l'Occident ou partout ailleurs, ses œuvres sont toujours reprises. Et parlant d'elle, de toutes les façons, vous convenez avec moi que Bella Bello, cette légende-là, qui en tout cas rayonne, fait rayonner le nom du Togo partout ailleurs. Et donc, je pense que les honneurs, c'est vrai, le cinquantenaire a été marqué avec des activités qui, plus ou moins, peuvent être à la hauteur des souhaits. Mais au même moment, moi, je n'ai pas en tout cas constaté que ce soit au Togo ou même sur le plan international qu'il y ait des marques d'empreintes qui puissent donc célébrer sa personnalité, la personnalité qu'elle a été. Donc, je pense qu'au-delà de ces 51 ans, il faudrait quand même qu'on puisse ériger, c'est vrai, lorsqu'à l'université, c'est l'une des marques qu'a laissé le professeur Kokoroko en parlant donc de la scène Bella Bello, c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, étant donné que nous avons un ministre qui, je veux parler du docteur Lama Doku, qui fait beaucoup dans la culture, il faudrait quand même qu'on ait des centres, qu'on ait des trucs qui sont érigés en son nom. Parce que, de toutes les façons, comme je l'ai dit, Bella Bello a marqué son temps et continue par le marquer. Au-delà de reprises de ses chansons, c'est voilà pourquoi même cette chanson-là a traversé tout le temps et continue par le traverser. Mais il faudrait quand même qu'on ait des choses matérielles à la hauteur de ses souhaits-là, à la hauteur de la personnalité dont elle fait.
Isidore, c'est vrai que lors de la conférence de presse annonçant les activités d'hommage à Bella Bello, c'était l'année dernière, en décembre bien sûr, et c'était avec le ministre de la Culture et du Tourisme, docteur Lama Doku, et c'est vrai qu'il a été annoncé que le chef de l'État prendra une décision dans les jours même à venir pour plus immortaliser même d'ailleurs cette diva. Alors, finalement, on attend toujours cette décision.
Ce ne sont que des effets d'annonce. Ce ne sont que des effets d'annonce, puisque Bella Bello était une perle de la musique africaine. Elle a rivalisé de talent avec Myriam Makeba. Quand elle était allée, et on l'appelait enlever du rideau, première partie du concert de Myriam Makeba. À Saint-Paulo. Mais on croyait que c'était Myriam Makeba. À ce moment-là, on nous a raconté que Myriam Makeba était sortie de son grand pour venir voir qu'est-ce qu'il chante comme ça. Donc c'est une perle qu'on a perdue. Et bon, depuis là, bon.
C'était au stade Maracana de Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, c'est São Paulo, c'est Maracana, Rio de Janeiro. Merci de m'avoir rectifié. Donc, c'est une paix qu'on a perdue, mais et depuis là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ne serait-ce que construire une salle de spectacle en son nom? Même s'il ne fallait pas trouver une rue, bon, moi je pense que le mieux, c'est de créer une salle de spectacle en son nom. Celle qui a soulevé des foules.
Mais attends, déjà, une scène dédiée en son nom, c'est quelque chose.
C'est à l'université de Lomé.
Non, ça, c'est l'esplanade.
Oui.
Ce n'est pas une salle.
Je parle d'une scène.
Une scène. Je parle
d'une salle, oui, de spectacle digne, oui, de ce nom, mm, qui peut contenir 10 000 personnes. Puisqu'elle a, il a, elle a eu l'occasion de soulever plus de 100 000 personnes à Rio de Janeiro. Mm.
D'accord. Donc, Bella Bello.
Et comme Isidore le disait, mm, au cours de ce spectacle, quand elle a fini, vous savez, Myriam Makeba a repris une chanson de Bella Bello pour montrer que vraiment, celle-là mérite quand même d'être sur sa scène.
Mm. Ce que beaucoup de gens oublient, oui, et quand, durée de mémoire, Manu Dibango était à RTI, vous savez que c'est lui qui a arrangé beaucoup de chansons
de Bella Bello.
Mm. Ben, il est venu faire les pieds et les mains pour rencontrer Bella Bello. Beaucoup de gens ne savent ça. Et Sango Yesu Christo, Sango Yesu Christo, Alléluia. Mais c'était une chanson de... C'était une chanson de...
Bella Bello.
Non, mais composée par... Et Manu Dibango.
Mais...
C'est pourquoi il a repris. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdu de Bella Bello.
D'accord.
Alors,
Bella Bello mérite d'être raconté.
J'appelle tout le monde à la scène Bella Bello de l'Université de Lomé ce vendredi.
Ce vendredi, justement.
Pour célébrer une fois encore cette diva.
Et sa chanson à titre posthume. Oui. Qui est. Prémonitoire. Ouais, cligné ya. Mbaro sebe nene mako mano. Afiako.
Merci beaucoup. Merci, Isidore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Isidore, nous restons avec vous par rapport à la culture toujours, hein. Et là, vous vous intéressez à cet ouvrage noir en Asie, une odyssée vers la tolérance. Alors, c'est un ouvrage écrit par notre compatriote Greta Waklachi. On l'a reçu même d'ailleurs dans cette émission. Vous revenez alors sur cet ouvrage pour ces différents aspects.
Non, évidemment, pour montrer aux Togolais que, bon, il y a des gens qui racontent leur vie, leurs mésaventures, tout ce qu'ils ont eu à vécu, à vivre. Et c'est en cela que je m'intéresse à son ouvrage Noir en Asie, qui est une odyssée vers la tolérance, pour dire que les cultures sont là, mais il y a des disparités. Il y a des mirages. Je n'ai pas parcouru l'œuvre, mais quand j'ai lu le résumé, je sais qu'elle parle de sa vie.
Elle l'a dit ici.
Elle l'a dit, oui.
Elle l'a dit. Et que, ce qui est important à comprendre dans cet ouvrage, c'est que forcément, elle a pensé aller à la recherche de l'Eldorado.
De l'Eldorado.
Mais malheureusement, qui s'est transformé en tragédie. C'est-à-dire qu'elle a eu à subir beaucoup d'affres, beaucoup de difficultés dues justement à la différence de culture. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'était pas acceptée dans les milieux qu'elle fréquentait tout simplement parce qu'elle est noire. Elle est noire parce qu'elle n'est pas de leur environnement et il fallait justement lui faire voir de toutes les couleurs. Mmh. Et donc c'est une tragédie qu'elle a essayé de transcrire à travers ce livre-là qui est très important à parcourir pour savoir que la différence aujourd'hui entre les cultures agit sur le vivre ensemble.
L'ouvrage est sur le marché.
Oui, justement, l'ouvrage est sur le marché. Adam, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui pratiquer cette tolérance culturelle ou ce brassage culturel pour enrichir plutôt ce que nous avons. Parce que, comme le disait l'autre Antoine de Saint-Exupéry, si tu te diffères de moi, l'un de mes lésés, tu m'enrichis.
Voilà. Mmh. Oui, mais vous savez, ça ne se décrète pas. Mais ce qu'il faut faire, moi, je pense que il faut... C'est vrai, au niveau de la sensibilisation, etc. Mais préparer les esprits. Je pense que lorsqu'on fait ce partage d'expérience, parce que c'est un vécu qui a été malheureux, l'hostilité face à certains pays, le noir continue par en subir. Et lorsque mentalement, vous êtes préparé, ça agit moins. Mais au même moment, continuer par en parler est une bonne chose. C'est vrai que aujourd'hui, avec ces mouvements de réclamation dont l'Afrique est aujourd'hui auteur, fait qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent en réalité que manifester des hostilités face à un Africain n'est pas une bonne chose. Et je pense que c'est dans ce sens que ce partage d'expérience résumé dans ce livre-là est une bonne chose pour éveiller et corriger un certain nombre de choses qui agissent sur le noir mais qui ne permettent pas en réalité d'arriver aussi bien à ce panafricanisme et d'arriver à un monde beaucoup plus solidaire où les libertés individuelles et collectives s'expriment.
Eric, c'est vrai, vous êtes revenu également sur un sujet très important. Vous parlez de l'exposition d'Alioune Diagne à Paris, en attraction, une illustration d'un Togolais sauvant un bébé dans l'océan.
Alors, Alioune Diagne, c'est un peintre sénégalais qui expose à Paris actuellement jusqu'au 24 février prochain. Mais ses œuvres qu'il expose parlent de l'immigration et surtout par rapport à cette immigration-là qui se déroule à travers le continent africain et le continent européen par la mer. Et donc, Alioune Diagne a illustré une scène qui s'est produite sur l'océan Pacifique où un Togolais a sauvé un enfant qui était en train de se noyer parce que les parents étaient dans un bateau qui a chaviré. Et donc, Alioune Diagne, quand il a suivi cette scène-là, à travers les médias, justement, il s'est demandé, mais pourquoi on ne fait pas de la communication autour de cette scène-là qui devait conscientiser les gens qui quittent leur pays pour aller en Europe à travers les océans. Il dit qu'il faut immortaliser cette scène-là et quand vous voyez dans la salle d'exposition, il y a un tableau où il a peint un être humain en train de prendre un enfant qu'il est en train de sortir de l'eau. Et c'est un Togolais qui a fait cet exploit-là, mais que malheureusement, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, comme il le dit, pour conscientiser les gens. C'est pour ça qu'il a tenu à faire ce tableau-là et à l'exposer aujourd'hui en France.
La culture aussi, c'est de l'exposition.
Oui, c'est de l'exposition, mais encore plus des dédicaces. Des ouvrages publiés par des gens. Et en cela, je voulais inviter le public à le samedi 11-17 février à 10h à Bordahome pour découvrir l'exposition de l'œuvre, de l'ouvrage Enraciner la démocratie en Afrique par l'ordre d'intellectuel.
Voilà.
Qui réfléchit sur l'ancrage de la démocratie dans nos pays. Est-ce que c'est une bonne approche? Voilà, et c'est Maryse Kouachi et Folikwe qui font aussi partie des intellectuels qui ont...
Ils sont tous des professeurs à l'université.
Des professeurs à l'université qui ont publié cet ouvrage auquel nous devons participer le samedi pour voir la quintessence, le contenu. Et ça pose sérieusement le problème de l'enracinement de la démocratie.
Voilà. L'enracinement de la démocratie, quand on parle de la démocratie, l'un des facteurs aussi, c'est les élections. Nous savons que les élections nous attendent déjà le 13 avril prochain. Et rapidement, nous allons en parler. Parlons politique alors dans cette émission. Et Isidore, vous êtes revenu sur le découpage électoral. C'est ce découpage que l'opposition dénonce, bien évidemment. Vous écrivez à la une de votre journal ce matin. Élection législative et régionale du 13 avril 2024. L'opposition togolaise vend debout contre les conditions d'organisation. L'ANC rejette le découpage électoral. Le CAA dénonce une organisation non consensuelle. La DMP s'insurge contre un scrutin au pas de charge. C'est vrai que hier on en parlait avec la réaction d'un certain nombre alors de partis politiques. Il y a le FDR également qui dénonce cela, et enfin le découpage électoral. Isidore, finalement, quand on suit tout, le problème n'est toujours pas réglé.
Non, pas du tout, pas du tout. L'un s'en faut. Et si Fonia Sigbe ou son gouvernement a réussi quelque chose, c'est de pouvoir regrouper contre lui les ténors de l'opposition togolaise, qui on croyait jadis se séparer, aujourd'hui se rassembler, et tous parlent de la même voix. Dire que, bon, à la lueur, les choses évoluent, c'est comme si c'est le gouvernement seul qui pilote le processus électoral. Et ce n'est pas normal. Et quand vous voyez le découpage électoral qui a été fait pour, soi-disant, corriger les disparités, mais on en a plus créé.
Mais ça a été une proposition au niveau du CPC.
Et alors, est-ce que les gens se sont entendus? Et depuis qu'on avait dit ça, les gens demandaient une rencontre pour peaufiner et réfléchir sur la clé de répartition.
Mais il y a déjà un cadre. Et quelle rencontre encore?
Mais le cadre, est-ce que c'est le cadre qui a défini la clé de répartition des sièges? Dis-moi, si tu en sais quelque chose, ce n'est pas le cadre. C'est le gouvernement qui a décidé unilatéralement d'attribuer des sièges. Quand vous prenez la région maritime, qui représente 44% de l'électorat à 31 sièges, et vous prenez
la région maritime,
44%,
oui.
31 sièges.
Non.
31 députés.
C'est 31, la région maritime.
Je ne parle pas de...
Oui, c'est Grand Lomé.
Ah, ok.
Là, c'est Grand Lomé, 14.
Et vous prenez la région des plateaux, qui représente 22% à 31 sièges. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et on nous a dit que, bon, on prend trois critères. Critères démographiques, critères géographiques et critères spécifiques, sans... donner le contenu même de ces critères spécifiques.
Okay.
Et la question qu'on se pose, les députés sont avant tout les représentants du peuple,
oui,
et non les représentants des régions. C'est pourquoi il y a les élections régionales pour représenter ces régions au Sénat.
Mmh.
Voilà le problème. Et tout ce qui se passe actuellement, si vous avez... une notion, enfin, je n'insulte personne, le minimum de notion que moi j'ai sur la formation bridge que j'ai reçue, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous allons vers un scrutin non consensuel.
D'accord.
Qui sera peut-être source de problèmes et de contestations.
D'accord. Est-ce que vous comprenez l'opposition qui dénonce ce découpage électoral, puisque ça a été toujours le cas?
Oui. Je la comprends tout simplement parce que, vous savez, lorsque vous voulez organiser une élection consensuelle, une élection acceptée par tous, il faut clairement expliquer aux gens ce que vous êtes en train de faire. Par contre, quand moi je prends la répartition du nombre de députés par région, je me rends compte d'une chose, c'est que le nombre de députés est réparti par région en tenant compte du nombre de préfectures. Et c'est ce que je constate. Quand je prends la région des plateaux, la région des plateaux a par exemple 31 députés et il y a au total 12 préfectures. La région de maritime en a 31 également, et quand je comptabilise, j'ai 8 préfectures. Je prends la région des centrales, 5 préfectures, 16 députés. La région de la Cara, 7 préfectures, 19 députés et la région des Savanes, 7 préfectures, 16 députés. Et je crois qu'il y a eu une répartition en tenant compte également des préfectures.
Ce n'est pas normal.
Du nombre de préfectures.
Oui, on
parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une concentration de la population dans un milieu et on va affecter le plus grand nombre de députés à cette région-là au détriment des autres. Je pense que c'est vrai, quand vous prenez le nombre d'habitants par préfecture, vous vous rendez compte que la région maritime a plus d'habitants que les autres régions. Mais par contre, il y a plus de préfectures dans ces régions-là que la région maritime.
Les députés sont les représentants des bêtes.
Non, mais non.
Ou des arbres.
Non, Isidore.
Je sais de quoi je parle.
Oui, mais attends, moi je suis en train. Non, moi je suis en train de faire une analyse.
Une analyse.
Vous êtes parti sur une mauvaise base.
Mais pourquoi toi tu me dis ça?
Mais je te le dis parce
pourquoi,
que c'est
pourquoi,
une mauvaise base.
Pourquoi
ne pas dire que chaque préfecture.
Isidore.
On crée une préfecture qui n'a même pas d'habitants, du coup on veut l'affecter des.
Mais il m'a coupé quoi? Mais non, Isidore. Dans ces préfectures-là, il y a des hommes.
Et ce sont les représentants. Ils vont représenter.
Tu fais une analyse.
Oui.
Il faut tenir compte aussi de ce que l'autre dit.
Non,
tu ne peux pas me dire que je fais une fausse analyse.
Entends-toi de
ta position. Explique-moi. Moi, j'ai fait une analyse. Par rapport au nombre de préfectures,
quand les prémices sont fausses, les résultats sont toujours faux.
Isidore, c'est votre analyse.
Mais quand on parle de députés, c'est un représentant du peuple.
Oui.
Et c'est là le critère démographique qui compte avant tout.
Oui. Maintenant, quand tu prends par exemple,
Isidore, c'est moi qui anime l'émission, s'il vous plaît. Alors, Adam, c'est vrai, vous avez suivi aussi le découpage électoral, la répartition. Et quelle appréciation vous faites alors de ce découpage?
Vous savez, une chose est claire. Vous savez, pour parler de découpage ou l'attribution de sièges, nous avons fait une analyse ce matin là-dessus. Il y a des critères, il y a des dits, des non-dits et des clairs obscurs. Oui. Bien évidemment, les partis en font des commentaires, mais aucun n'est arrivé aujourd'hui à pouvoir identifier un critère clair qui puisse véritablement rassembler toutes les opinions. Ce n'est pas possible. Mais ce découpage-là résout un certain nombre de problèmes. Vous constaterez qu'il y avait des préfectures qui étaient incrustées dans d'autres préfectures, j'ai compté, ils sont total 9, notamment vous constaterez qu'il y a Kbélé, Akébou, d'autres choses. Aujourd'hui, ce sont des préfectures autonomes. Parce que, entre-temps, lever un député dépendait réellement d'une autre préfecture. Aujourd'hui, ce sont des préfectures à part entière avec leur CELI, dans une gouvernance qui tient la route. Ils sont autonomes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, lorsqu'on ne prend pas dans le critère, lorsqu'on dit démographique, lorsqu'on prend par exemple comme la base Lomé. La base Lomé, et qu'on prend par exemple au niveau des communes, par exemple, en faisant en sorte qu'on puisse dispatcher, en tout cas la population, en fonction des communes que nous avons. Ça veut dire qu'il y aura des préfectures qui n'allons pas avoir de députés. Vous convenez avec moi qu'il y aura des préfectures qui n'allaient pas avoir de députés. Mais s'il faudrait aussi partir sur cette base-là, dans quel pays on est, on peut par exemple attribuer 50 députés, par exemple, au Grand Lomé. C'est pas normal. Parce que si nous parlons sur cette base de critères démographiques. Vous convenez qu'avec moi, que la moitié des députés seront à Lomé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on, lorsqu'on parle de représentation du peuple, Lomé, on prend le golfe, a au moins un député pour chaque commune, avec un bonus de plus, parce qu'il y en a 8.
Ouais.
Avec un bonus de plus.
Tout à fait.
Lorsqu'on nous dit que ce sont des représentations du peuple, on est d'accord. Un député représente une commune. Je pense que c'est bon. Quel démembrement? Donc, on va faire représenter des députés par quartier? Pas canton? Mais ce n'est pas normal. Mais à partir du moment où nous sommes aujourd'hui au niveau deuxième palier de notre développement à la base, notamment après les communes, deuxième palier, ce sont les régionales. Ça veut dire quelque part que nous avons aujourd'hui, en tout cas, une très bonne subdivision et de la gouvernance du pays, ce qui fait qu'en réalité, ce nombre-là, même des députés augmentés, même les gens le contestent. Dans la mesure où nous avons aujourd'hui les communes, nous avons les régionales. Bon, dites-moi, ceux qui constatent en réalité cette augmentation ont un peu raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une bonne subdivision, bien calibrée du pays. On n'en avait pas besoin. Donc, ce que vous avez dit quelque part, lorsque pendant les gens évoquent ça, l'homme constitue, en tout cas, la résidence de tout le pays. Si chacun devait se faire recenser suivant sa commune, la population de l'homme est de combien? Si chacun, comme ça individuel, devait se faire recenser suivant sa coutume, je ne veux pas parler de la question régionaliste, on dira que voilà, nous sommes dans la discrimination. L'homme se représente combien de populations? Vous voyez un peu les critères. Donc, ce que vous avez dit quelque part qu'aujourd'hui, personne ne peut arriver véritablement. Lorsqu'on parle, le troisième critère que Isidore parlait, c'est un critère évident. Parce que vous prenez aujourd'hui au niveau, lorsque nous prenons des gens qui ont quitté la démographie, les gens qui ont quitté des localités sont ailleurs, où ils sont véritablement représentent un nombre suffisant. Dans les localités, il y a plein mal, nous n'allons pas les citer ici, ils représentent véritablement une portion de la population au niveau des préfectures qui ont besoin véritablement des représentations. Donc ça crée des problèmes. En fait, ce sont ces problèmes-là qui sont des émanations de la question des chefferies que nous connaissons. Voilà pourquoi cette question ne peut pas être identifiée en disant voilà ce qui est dit. Voilà pourquoi c'est resté à ce que je dis, les clairs obscurs que le gouvernement a dit sur le troisième, proposition que Isidore critiquait. Donc je pense que, quoi qu'on dise, il serait difficile d'avoir une formule de subdivision et en tout cas de partage de ces postes-là qui puissent véritablement répondre aux attentes de chacun et des autres. Mais chacun devait pouvoir voir qu'il y a des problèmes qui sont résolus, comme les problèmes de ces localités dont je parlais. D'abord, les préfectures qui sont autonomes. De deux, certaines, en tout cas, qui seraient liées donc à des populations qui ont fait des migrations qui sont bien représentées. Mais la troisième également fait que ces problèmes-là, demain, nous ne les connaissons plus.
Voilà. Mais Isidore, nous sommes en politique et chacun tire le drap de son côté.
Et c'est ce qui est dommage. Et nous n'avons pas nous développer. Vous avez vu comment on a saucissonné nos communes qui sont devenues des communes économiquement non viables. Et c'est ce qu'on a fait pour les préfectures aussi. Est-ce qu'on a besoin de créer des préfectures quand c'est que ces préfectures ne seront pas économiquement viables? Partons des bases scientifiques.
Et ces bases scientifiques, quels sont ces critères?
Le coefficient de représentativité partout ailleurs. Je n'invente rien. Ne faisons pas de certains députés des députés de seconde zone. C'est ce que nous sommes en train de constater. Vous prenez le cas du Bénin. Plus peuplé que le Togo. Avec moins de préfectures, moins de députés. Où allons-nous? Est-ce que nous allons toujours jouer sur ces considérations politiques pour émietter hypothéquer le développement de nos régions? C'est ma grande question que moi je me pose.
Eric, est-ce que...
Alors, je pense que nous sommes en train de faire une analyse d'une situation que les politiques sont en train, pour certains, de dénoncer, pour d'autres, d'accompagner.
Tout à fait.
Mais je reste toujours sur mon analyse personnelle. Je disais tantôt que je constate qu'il y a dans la préfecture, dans la région maritime, 8 préfectures. Est-ce que, selon l'analyse d'Isidore, est-ce que ces préfectures-là ont été créées à la veille de ce scrutin?
Non.
Non. Ces préfectures-là ont toujours existé. Et pourquoi ces préfectures-là existent?
Moi, je parle d'une situation structurelle.
Oui,
on
laisse Eric terminer.
Oui, mais. En t'écoutant, on a tout comme l'impression que c'est conjoncturel.
en t'écoutant, parce que tu es en train de dire que pourquoi créer ces préfectures-là et créer un nombre de députés et tout ça qui n'ont pas. Non, je crois qu'il faut.
Oui, Isidore, on doit te couper. Non, Isidore, on doit te couper le micro parce que l'émission, on doit animer l'émission et que les gens nous écoutent. Isidore, assois-toi, s'il te plaît.
J'ai la parole.
Assois-toi. C'est Eric qui a la parole. Isidore, c'est Eric qui a la parole.
Il faut te calmer.
S'il te plaît.
Il faut te calmer, Isidore.
S'il te plaît, Isidore.
Je pense. Isidore.
Eric, vas-y.
Je pense que aujourd'hui, quelle que soit la répartition qui sera faite, les politiques ne seront jamais d'accord. Ils vont jamais s'accorder. Parce que il y aura des considérations démographiques, il y aura des considérations structurelles et d'autres considérations encore. Et je crois qu'aujourd'hui, cette répartition qui tient compte du nombre de députés et de préfectures auxquelles on affecte des députés, je crois que c'est une bonne base,
pour pouvoir
aller à ces élections. Et quand vous prenez même les conseillers régionaux, cette répartition-là a encore tenu compte du nombre de préfectures. Et vous voyez que vous avez 31 conseillers régionaux. Justement, l'exemple type, c'est la région de l'Akara, 7 préfectures, 31 conseillers régionaux. Région des Savanes, 7 députés, 31 conseillers régionaux. Alors, ça veut dire tout simplement que on a tenu compte de chaque préfecture. On ne peut pas laisser des préfectures sans députés et sans conseillers régionaux.
Oui, l'équilibre également que nous avons, vous constaterez aujourd'hui que les régions sont véritablement aujourd'hui équilibrées. Vous convenez avec moi, puisque chaque région aujourd'hui 4 députés au moins. Il n'y en a pas qui en a 8 plus. Et vous convenez qu'aujourd'hui, la région des plateaux, compte tenu de sa grandeur, on est en train de faire de Kbalimé. Le chef lui-même, ce n'est pas encore acté, mais les gens, en tout cas, il y a quand même au niveau structurel des ministères, des institutions qui se réclament de cette région-là. Kbalimé est le chef de la région des plateaux ouest. Vous allez constater que, quand bien même que Kbalimé est bas, lorsqu'on affecte Kbalimé de Kbélé et d'Agou, Kbalimé représente quoi? Rien. C'est pourquoi d'ailleurs même, Hao a plus de députés, Hao a 4 et Kbalimé a 3. Quand bien même que Kbalimé, au niveau constitué dans la région des plateaux, un chef-lieu, lorsqu'on sort de ces deux préfectures-là, Kbalimé ne vaut plus rien. Et Haro, c'est une grande préfecture. C'est une très grande préfecture qui va même à la frontière pratiquement de Moïmono. Donc je pense qu'au-delà de tout, lorsque nous remontons un peu l'histoire, lorsque les députés étaient à 81, on les avait remontés à 91 avec ce que le feu Yadema disait. L'opposition avait cru que le nombre augmenté était à leur faveur, mais une ira raflée. C'est justement ce que j'ai dit aujourd'hui, au lieu de s'apesantir sur des questions de répartition qui, pour certains, se réclament de certains, il faudrait quand même qu'il y ait un travail de fond qui soit fait. On peut quand même remettre ces députés-là comme ils le veulent, c'est quand, comme les gens le souhaiteront, si nous on s'entend sur la question démographique, mais lorsqu'il n'y a pas un travail qui suit, de toute l'évidence, vous constaterez que un parti politique, notamment unique, qui fait un travail de terrain, va les rafler.
D'accord.
Donc moi, je me dis, la question n'est pas là. Il faudrait véritablement, même si on peut en débattre, c'est un sujet qui peut faire un débat public, mais au-delà de tout, il y a un travail de terrain qui interpelle ces partis politiques.
Tout à fait. Isidore, est-ce que vraiment, on n'a pas besoin de ce travail de terrain aujourd'hui, tel que Adam le dit, et au fin fond, quand on prend ce travail de terrain, c'est ça qui va déterminer plus alors le score à la fin.
J'ai l'occasion de parler.
Ça, je vous ai posé la question.
Mon micro est encore coupé.
Je vous ai posé la question.
Si ça continue, répondre. Moi je m'en vais.
Isidore,
mon micro est encore coupé.
Isidore, répondez à la question. Allez-y.
Mon micro est encore coupé.
Isidore, je vous écoute. On vous écoute depuis la maison et parlez.
Mon micro est encore coupé.
Allez-y, Isidore.
Je suis technicien radio.
Isidore, allez-y, s'il vous plaît.
Mon micro est encore coupé.
Isidore, on doit avancer, s'il te plaît.
C'est là le problème que nous avons au Togo. On ne veut pas se dire des vérités. Vous vous souvenez, Union européenne avait financé un projet Grand Lomé. Avec les élections locales, ce projet est voué à l'hégémonie. C'est parti à volo. Alors que c'était un bon projet. On n'a pas besoin de saucissonner ce petit rétin que nous avons, compte tenu de nos intérêts politiques. C'est tout ce que moi je dénonce. Faisons de nos régions, de nos préfectures, de nos communes, d'économie économiquement viables. Si vous me comprenez, alors on peut continuer le débat. Ce n'est pas parce que le régime du père au fils Nyasimbe avait instauré un découpage qui nous sera imposé aujourd'hui. On n'a pas besoin d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée. Il suffit seulement d'avoir une clé de répartition sur la base de représentativité.
Oui.
C'est tout. C'est ça le critère scientifique.
Mais que l'opposition
c'est tout ce que moi
propose.
Je
propose. Mais vous, savez, juste... vous savez. Non, une minute, s'il te plaît.
Oui, Adam.
Vous savez, moi, je pense que cette question, en réalité, nous, Togolais, il y a cette question qui revient souvent, la mauvaise répartition des biens, des richesses, etc. Mais aujourd'hui, avec cette augmentation, c'est vrai. Je fais partie de ceux qui estiment que, avec le cabinet que nous avons, avec le deuxième palier de notre, en tout cas, la gouvernance locale, etc., qui est advenue, on n'en avait pas aussi besoin. Mais, pendant qu'on y est, il faudrait quand même constater que ce sont des personnalités, des autorités qui sont payées. Donc je pense que c'est quelque part une répartition. On peut aussi le considérer comme telle, une répartition des richesses du pays. Parce que quelque part, aussi c'est une question de sécurité. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus poser un acte quelque part, que ce soit dans la bourse au Togo, sans être interpellé. Donc c'est déjà, je pense que ce sont des vertus sur lesquelles nous posons quand même un peu fermer les yeux sur l'effectif, parce que de toutes les façons, ce sont les Togolais, ce ne sont pas les étrangers qu'on est dit. Donc, quelque part, on peut quand même fermer les yeux.
Alors, voilà, la répartition est déjà faite. La répartition, merci.
Ce qu'il dit là est en contradiction avec la loi fondamentale.
C'est-à-dire la Constitution.
La Constitution.
Oui.
La loi.
Le mandat impératif n'existe pas au Togo. Oui. Si nous raisonnons de cette manière, c'est comme si je suis élu de cette région, je dois aller défendre les intérêts de cette région.
Non.
Non, le député, quand tu es devenu un élu du peuple.
Du peuple de
voilà, mais à la
une représentation de
le problème que ça arrive de nous causer, c'est quoi? Lorsque vous prenez le maire, parce que de toutes les façons, on dit qu'il est représentant du peuple, mais que lorsqu'il arrive dans sa salle,
s'il vous plaît, allez-y. Oui, Isidore.
Que nous sommes en train de faire risque de pousser les députés vers un mandat impératif.
Non du tout. Non du tout, Isidore.
Oui, Eric.
Lorsque vous arrivez à l'Assemblée, vous êtes un député du peuple, tout simplement.
Tout à fait.
Vous avez été élu dans votre
Localité, circonscription électorale.
Mais lorsque vous arrivez à l'Assemblée, quand vous faites une loi, c'est une loi de la République et non une loi pour votre localité, tout simplement. Je suis d'accord avec Isidore que ce débat-là doit être fait. Et c'est là où je disais au départ que l'opposition a raison de contester quand même cette répartition-là parce qu'elle n'a pas participé au travail qui a été fait préalablement. C'est pour ça que je dis quand on explique aux gens ce qu'on est en train de faire, ça limiterait quand même les discussions, les contestations et autres. Voilà, moi, ma position par rapport à cette répartition qui a tenu compte de beaucoup de choses comme les critères démographiques, les critères géographiques, etc.
Les non-dits.
Et je pense que pour le moment, cette répartition-là permet quand même à toutes les régions, à toutes les préfectures, d'avoir quand même des conseillers régionaux et des députés, tout comme les autres préfectures.
Oui, Adam.
Oui, mais vous savez, moi, en fait, au regard de toutes ces questions, moi, ce qui m'importe en réalité, vous savez, lorsque vous prenez pendant les maires, ils ont un mandat administratif, mais également un mandat de gestion communale. Mais moi, ce qui ne me paraît pas logique. Vous savez, lorsqu'on parle du chômage politique, elle est beaucoup plus avancée, hein, Il est très beaucoup plus avancé. Donc pour moi, c'est en réalité le fait d'autoriser ces maires à être candidats et à poursuivre. D'ailleurs, même, ils sont maires, d'abord, ils sont difficiles d'accès. On nous dit qu'il faut rapprocher l'administration de l'administration aujourd'hui. Lorsque ces députés, il faut faire en sorte que chacun y ait un peu. Aujourd'hui, vous allez voir quand même, il y a coups effrénés des maires qui veulent devenir pratiquement députés. C'est en cela que moi je me dis, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais on ne va pas les résister en règle.
Tu connais les raisons.
Ils sont maires, ils sont difficiles d'accès. Ils veulent devenir encore députés. Vous allez à un maire, il y a des dossiers sur lesquels c'est le maire qui traite. L'agent ne peut pas traiter. Donc il faut faire en sorte que ces gens-là puissent quand même nous déposer un bilan. Parce qu'ils sont pionniers de ces questions de l'administration locale. Ils sont pionniers. Il faudrait quand même qu'on puisse nous montrer qu'ils sont arrivés à un niveau de gestion administrative élevé. Ce qu'on n'a pas encore. Regarde tous les problèmes que les maires ont aujourd'hui dans les localités. Et on veut encore rajouter à ces maires-là d'être députés. Tu vas tout le temps, le maire risque d'être à Lomé. Parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, lorsqu'on nous demandait que voilà, on élit les députés, aujourd'hui, on n'en a pas assez besoin que le député vienne encore. Parce qu'il y a déjà les régionaux, les conseillers régionaux qui sont là. Nous avons les maires qui sont là. Le député ira encore faire quoi dans ce que. Il n'a qu'à rester à le maire, faire les lois. C'est bon. Maintenant, le maire, on ne devrait pas le retrouver.
Je voulais apporter une information. Encore, mon micro ne fonctionne toujours pas.
Allez-y, on vous écoute.
Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il le fait.
Allez-y, Isidore, on vous écoute.
C'est mon dernier avertissement. Et je voulais apporter une information à Adam. C'est ça pourquoi il y a une ruée aujourd'hui vers le Parlement. Parce que aujourd'hui, quand tu es élu député, tu es député à vie.
Ah bon?
Ah, lisez bien les textes. Avec la nouvelle modification, tout député est député à vie. Donc, sa retraite est garantie. Ah. C'est pourquoi aujourd'hui, même au sein de UNIR, tout le monde se rue vers la députation. C'est l'information que je t'apporte.
D'accord. Pas les 18 ans des mains. Pas les mains peuvent aujourd'hui faire 18 ans.
Merci. Merci, cher confrère. Merci beaucoup, puisqu'il est déjà midi. Et nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et ça a été chaud à un moment donné, bien évidemment. Et nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils vont aussi se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, deuxième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 91 36 63 75, 91 36 63 75 pour alors se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Appelez-nous au 91 36 63 75. 91 36 63 75 pour se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse avec mes confrères journalistes. Un auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, comment vous allez?
Oui, ça va. Je salue tout le plateau.
Oui, le nom c'est?
C'est Hervé.
Hervé.
Oui.
Hervé, allez-y.
Félicitations pour le débat du jour.
Merci.
Et bon, d'abord, j'ai une petite requête. Et votre temps que vous nous accordez pour intervenir, déjà, on vient de constater que votre page publicitaire a pris du temps. Je ne sais pas si vous rajoutez ça au temps d'antenne que vous devez normalement, 30 minutes que vous donnez aux auditeurs. Bon, c'est la première. Il faut y réfléchir.
D'accord.
Bon, ok, deuxième. Et le débat sur les critères de répartition, et c'était un peu houleux tout à l'heure, mais ce qu'il faut constater et qui sort de tout ce que les uns et les autres ont dit là-bas, surtout M. Isidore, qui a fait une belle intervention, c'est que le critère démographique est le critère pilier. C'est le critère pilier. Et incontournablement dans ce monde, en matière de développement local, gouvernance locale, c'est le pilier premier, autour duquel gravitent d'autres critères. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, l'erreur de notre, parti, et disons le système en place, le parti au pouvoir, tout ça là, c'est que ils n'ont pas su associer les acteurs à ce choix et mettre à jour les critères. C'est-à-dire, les critères là, il faut les sortir, faire une liste des critères. Nos amis là, vous voyez, nous allons tabler sur 7 critères, 8 critères. On les liste, démographie, préfecture, on les liste. Et on demande à ces acteurs de valider ces critères. Tu le vois.
Mmh.
Et quand les acteurs valident les critères-là, et voilà, c'est sur ces critères-là maintenant qu'on va faire le choix. Et la troisième chose, c'est que
oui. Ce
n'est pas la quantité qui fait la démocratie, c'est la qualité, la force des institutions. Quand on augmente le nombre de députés, ça ne change pas grand-chose, c'est la qualité. On peut avoir 91 ou bien je ne sais quoi, mais qui contribue vraiment au développement, qui fait un bon travail. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je vous remercie.
Merci beaucoup Hervé. 91 36 63 75. 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler, réagir sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 91 36 63 75. 91 36 63 75. Le numéro par lequel vous pouvez nous contacter. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est
Niamavo.
Allez-y.
Salut le plateau.
Oui, salut.
Oui, depuis hier même, j'écoutais, comme quelqu'un l'avait dit, critères de pauvreté, qu'on pouvait mettre même 50 députés dans les savants. Pour éradiquer, les députés vont aller éradiquer la pauvreté. Je me demande, l'hémicycle, ceux qui viennent de finir, à part l'opposition satellitaire, qu'on appelle communément, comme vous le savez, et ils sont là-bas, ils n'ont pas pu éradiquer la pauvreté, c'est maintenant qu'il faut augmenter le nombre de députés là-bas. Bon, ok, quelqu'un vient aujourd'hui, pas de préfecture, quels que soient les critères, moi, le critère fondamental, comment faire pour convoyer les vrais procès-verbaux. Sinon, le reste des critères, là, c'est ça Moïse Katumbi appelle débat de caniveau. Et vous voyez. Donc, que l'opposition s'arme. J'ai dit que Monseigneur Kodjo a cherché cette liste qu'il n'a pas pu trouver avant sa mort. C'est comme ça Moïse n'a pas pu atteindre la terre promise. Mais il a sauvé son peuple des pharaons, des maîtres des pharaons. Donc, c'est maintenant que l'opposition doit attendre. Je disais hier que avec Maître Kassouna Traoré dans les Savates, Oura Kokanyaou dans Central, Ayamagou dans Plateau, Apibon dans Yoto, etc., tous ceux qui veulent que le Togo puisse envoyer les vrais procès-verbaux et s'assurer que ceux qu'on va mettre dans les bureaux de vote, que leur vie ne soit pas risquée. Moi, je sais le nom, je sais de quoi je parle. Mmh. On était interpellé à 1-4h du matin par les failles de RPP à l'époque.
Mmh.
Donc, il faut bien mettre les gens là, s'assurer qu'ils ne seront pas inquiétés et leur vie sera bien suivie. Et vous allez voir que on peut mettre même 50 sans députés dans le Nord, unis ne verra rien. Même s'ils sont rivalisés par les jeunes unis qui tentent de poser aussi les candidatures. Vous allez voir que depuis les élections dernières, j'ai certains amis qui ont tenté de poser des candidatures, mais on ne les a trompés pas les nettes pour changer.
D'accord.
Et tout ça comme ça.
Merci.
Donc, avec les 500 000 là. Le conseil n'a qu'à t'entendre.
D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Niamavo. On peut avoir encore un dernier auditeur, puisqu'il nous reste alors quelques temps. 91 36 63 75. Allô? 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Victor, je vais bien.
Oui, Victor, allez-y.
Ouais. Oui, je voudrais faire une remarque à Isidore.
Oui, Victor.
Permettez-moi d'aller en vernaculaire.
Oui, Victor.
Oui.
S'il vous plaît, diminuez un tout petit peu le volume alors de votre poste qui est à côté de vous. Il faut même l'éteindre, vous allez nous écouter.
Bon.
Oui, allez-y.
Allô, c'est bon?
Oui, c'est bon, allez-y.
Allô?
Oui, oui. Victor.
Oui.
Oui, nous vous écoutons, allez-y.
Alors, remarque, il y a un moment où on est Isidore Ali.
Oui.
Nous, mon bon idée, et on analyse, nous, les bois des noms et des Romani. Et bon idée, mais à mer, bon et en bois. Mais d'où, au moins, à ma mère, mais pas bon, oui, il y a les Kevelles. C'est tout.
D'accord. Merci. Voilà. Oui, merci beaucoup, Victor. Oui. Je pense que ce serait pour tout. Ok. D'accord, merci. Alors, nous allons revenir au plateau parce que notre temps est déjà presque parti. Alors, Eric, vous avez écouté les uns et les autres. C'est vrai, nous avons eu alors quelques auditeurs qui se sont exprimés sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, surtout la répartition, hein, la répartition surtout sur le plan du découpage électoral. Alors, finalement, quelle est votre réaction?
Je pense que Monsieur Hervé, qui disait que Isidore a fait une très belle analyse sur la clé de répartition en se basant sur les critères démographiques et tout ça, et en liant ce critère-là au développement. Je crois qu'il y a peut-être un petit truc qui n'a pas bien saisi dans le développement de Isidore. En parlant de coefficient
de représentativité,
Isidore parle effectivement du critère démographique, mais ça ne va pas s'arrêter là. On ne peut pas se baser uniquement sur le critère démographique pour faire cette répartition-là. Quand il parle de développement, je crois que là, nous sommes dans une élection de députés. Alors, députés et développement, je crois qu'il s'est un peu trompé. Je préférerais qu'il attende qu'on aille aux élections communales pour pouvoir parler de développement et le lier à ce critère démographique.
D'accord.
Je crois que tout le monde aura raison en parlant de cette répartition-là, parce que il y a plusieurs critères. Lorsque vous sortez le critère démographique, quelqu'un vous parlera du critère géographique. Quelqu'un d'autre vous parlera d'autres choses. Et il faut que, comme il a dit peut-être, il faut que tout le monde, tous les acteurs politiques, en a créé un cadre où ils pourront aller échanger. C'est le CPC. Ils peuvent aller discuter là-bas. Je crois que c'est important. Il ne faut pas se dire, moi, je ne vais pas discuter. Mais si tu ne vas pas discuter, comment on peut prendre en compte tes propositions? Je ne veux pas discuter, mais je conteste. Alors, mais on est toujours victime de ce refus de discussion, de dialogue, parce que après tout ce qui est décidé là-bas sera appliqué. Et c'est tout le monde qui est sous le coup de
D'accord.
la loi.
Oui, Adam.
Oui, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que je crois qu'en ce moment il y a trop de clichés qui nous est collé. Je parle des Togolais plus dans leur globalité. Mais l'équivoque qu'il faut relever, c'est que pour les Togolais qui estiment que il pourrait avoir en tout cas des conflits aussi bien de compétences et territoriales, hein, des conflits territoriaux dans les localités, compte tenu du fait, je dis non, tout est bien calibré, dans la mesure où, vous savez, lorsqu'on prend un député, il est élu au suffrage universel direct. Chose que n'a pas le maire. Vous savez, le maire, d'abord, c'est un élu local. Et c'est après qu'il se regroupe et qu'on le choisit comme maire. Et lorsque vous le prenez, on peut également le démettre, etc. Ce qui n'est pas le cas au niveau du député.
Mais également, lorsqu'il y a l'immunité.
Voilà, vous prenez également au niveau des conseillers régionaux. Ils ont leur part, mais n'oubliez pas que le gouverneur est resté l'apanage du président de la République, qui peut ne pas
pouvoir central.
Donc tout est bien calibré. Il faudrait quand même que les gens croient que l'effectif, c'est vrai qu'aujourd'hui est un débat qu'il faut véritablement évoquer dans ce cas de figure-là, n'est pas une question de pouvoir avoir en tout cas des jonctions à ce qui concerne des conflits de territoire.
D'accord. Isidore?
Non, je suis au regret de dire que nous sommes partis sur de mauvaises bases. et qu'on a émietté nos régions, nos préfectures, nos communes, au point que le développement pouvait en partir. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, ce qui sous-tend l'augmentation du nombre de députés. Vous l'avez vu, on a dit que la population a augmenté. 8 millions comparé à plus de 15 millions au Bénin, ils n'ont pas 100 députés. On traîne.
Même s'ils sont bien payés.
Même s'ils sont bien payés.
Rapidement, oui. Mignon,
qu'il faut corriger, ça c'est tout mon problème. Je dis que nous sommes partis sur de mauvaises bases.
D'accord.
Si on veut que ce pays puisse avancer, revenons à de meilleurs sentiments. Revenons à des critères scientifiques. Le député est représentant du peuple. Le sénateur est représentant de sa région.
Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Eric, merci. Merci à toi. Et Adam, merci. Isidore, merci. Merci alors d'être passé puisque notre temps est déjà parti. Alors, merci à tout le monde à TV qui a assuré la mise en onde. Et la mise en ligne a été assurée par Géraud Akucha. Je suis Pascal Losso. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Bon appétit chez vous.
Canal FM. My music.